Bonjour mes frères et sœurs, je vous retrouve ce soir pour une étude. Ces derniers temps, dans la communauté, nous avons beaucoup parlé de la prêtrise des chrétiens d'une dénomination qui est tout à fait respectable. Ils sont venus nous parler de cela et nous en avons beaucoup réfléchi. Nous en avons beaucoup parlé entre nous, nous avons réfléchi et nous avons prié, nous avons regardé les Écritures. Et je voudrais partager cela avec vous aujourd'hui. Il y a des choses que peut-être vous ignorez, que je vais vous dire. Par où commencer? Il y a la prêtrise selon les doctrines religieuses de ce monde. Vous connaissez, la plupart du temps, c'est des prêtres catholiques. Et puis il y a la prêtrise selon l'ordre établi par Dieu, qu'on trouve dans la Bible et déjà dans le livre de la Genèse. Dieu appelle certains hommes pour être des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres. Le premier sacrificateur nommé dans la Bible est un certain Melchisédek. L'apôtre Paul, dans la lettre aux Hébreux, je crois que c'est Paul qui écrit la lettre aux Hébreux, parle de Jésus qui détient cette prêtrise selon Melchisédek et qui est une prêtrise qui est intransmissible. Cela se trouve dans Hébreux chapitre 7 et verset 24. Oui, c'est cela. Alors, Melchisédek qui vivait au temps d'Abraham. Et Melchisédek a été mis à part pour se consacrer entièrement au service de Dieu, et on va voir comment. Il y avait déjà des gens qui servaient Dieu. Déjà, on trouve ça dans la Genèse, qu'il y a des gens qui commençaient à qui se consacrer pour la prière et toutes ces choses-là. En fait, depuis la Genèse, la sacrificature a commencé et n'a jamais cessé d'exister. Je dis bien, ça n'a jamais cessé d'exister. C'est pas parce que Israël a chuté ou parce que l'Église a chuté que il n'y a plus de peuple de Dieu qui détient une prêtrise. Il ne faut pas exagérer. Même le séjour des morts n'a pas de pouvoir contre la véritable Église de Jésus-Christ. Donc, tout au long des âges, il y a eu des gens faisant partie de ce peuple de prêtres. On va voir ça tout à l'heure. Jésus donc est devenu, nous dit l'apôtre, sacrificateur devant Dieu après son ascension, et c'est son service pour l'éternité. Prions. Seigneur, je te prie pour que tu nous éclaires et que tu vois que ça n'est pas sans importance que nous connaissions ces choses, parce que cela nous implique personnellement dans notre vie chrétienne à être des gens qui sont à ton service de la manière dont tu l'entends. Père, je te le demande vraiment au nom de Jésus de bénir mes frères et sœurs qui sont à l'écoute. Alors, pendant l'histoire de l'Église, il n'y a eu aucune interruption de la sacrificature, aucune. Et quand le millénium commencera, c'est-à-dire quand Jésus reviendra pour régner 1000 ans, ceux qui auront eu part à la première résurrection seront sacrificateurs et régneront avec Jésus. On trouve ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 6. Apocalypse 20, verset 6, voyons. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Ce qui signifie que les véritables enfants de Dieu continueront d'être les sacrificateurs de Dieu pendant ces fameux 1000 ans. Et puis après, le diable sera jeté au feu avec tout, avec tout ce qui est mal, etc. Et ça sera un nouveau ciel, une nouvelle terre. Alors, ceux qui auront été fidèles, qui auront participé à la première résurrection, les véritables enfants de Dieu, seront des rois pour le monde, on régnera avec lui, et des sacrificateurs pour Dieu. Et dans les nouveaux cieux et sur la nouvelle terre, le terme de sacrificature cessera d'exister. En tout cas, on ne trouve plus, il n'y a même plus de temple, il y a terminé. Alors, la sacrificature qui a commencé avec Melchisédek, s'étend jusqu'à la fin du millénium, c'est-à-dire jusqu'au commencement, entre guillemets, de l'éternité, c'est-à-dire du monde futur, sans anathème, sans le mal, sans le diable, sans les démons, sans... Voilà. Et on comprend ainsi que l'intention de Dieu n'est pas d'avoir un ou deux sacrificateurs sur cette terre, mais que tout son peuple sont des sacrificateurs. Voilà l'intention de Dieu. Sacrificateurs non pas selon l'ordre de Melchisédek ou d'Aaron ou de je ne sais qui, mais selon une prêtrise qu'il a lui-même inaugurée. La prêtrise de Melchisédek est intransmissible. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans Hébreux, chapitre 7, verset 24. Mais une prêtrise qui offre à Dieu un service de louange, d'action de grâce, qui loue Dieu, c'est cela notre prêtrise. C'est cela notre prêtrise. Dans Apocalypse 1, verset 16, il est dit à celui qui nous... Attendez, non, c'est pas là. Verset 16... Non, verset 6, excusez-moi. Il est dit à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Qui est prêtre? Ceux qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de Jésus-Christ. Et voilà. Il n'y a pas d'autre condition. Si vous avez été lavé par le sang de Jésus-Christ, que vous ayez eu l'imposition des mains d'un gourou, d'un évêque, d'un pape, ou de je ne sais où. De toute façon, si vous avez été lavé de vos péchés par le sang de Jésus-Christ, Dieu a fait de vous un royaume des prêtres pour son Père. Vous voyez? C'est Dieu qui a fait ça. C'est pas, personne ne peut vous nommer ou vous transmettre quoi que ce soit. Tout le peuple de Dieu, donc, pas seulement un ou deux bonhommes. Et c'est une prêtrise de sacrificateurs. Et qu'est-ce qu'on offre comme sacrifice? Eh bien, on va lire le psaume 50, c'est très intéressant, vous allez voir, le psaume 50, verset 23, voilà ce qu'il est dit. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance, sa louange, m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous honorez Dieu, vous louez Dieu, vous offrez un sacrifice de louange. Vous êtes des sacrificateurs. Vous sacrifiez votre vie pour qu'elle soit une louange à Dieu. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Hein, il n'est pas question de se sacrifier en mourant. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Voilà, voilà ce que nous sacrifions. Eh bien, nous n'obéissons pas à notre corps pour faire ce qu'il veut, les instincts de la chair et toutes ces choses-là. Non, maintenant, nous appartenons à Dieu et nous offrons à Dieu un sacrifice de louange, non pas simplement en disant « Alléluia, gloire à Dieu », mais en sacrifiant nos pulsions et toutes ces choses-là pour servir Dieu en état de sainteté. Voilà notre prêtrise. Il n'y a pas de distinction entre tel ou tel frère ou telle ou telle sœur. On est un peuple de sacrificateurs pour Dieu, tous pareils. Et notre sacrifice, c'est d'offrir notre corps vivant, sain et agréable à Dieu. Ce n'est pas de se mutiler, de se fouetter ou de je ne sais quoi. Non, tout ça c'est des âneries inventées par les hommes. Et puis, nous sommes chacun à notre place. Et c'est là que des gens se trompent, c'est que nous sommes chacun à notre place. Non pas comme inférieur et supérieur, pas du tout, mais comme ayant des fonctions différentes. selon nos appels, selon nos talents. Nous ne sommes pas tous apôtres, nous ne sommes pas tous prophètes, nous ne sommes pas tous... voilà, mais nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons tous à servir Dieu avec ce que nous avons reçu. Il y a divers ministères, mais le même Saint-Esprit, divers dons surnaturels, mais le même Saint-Esprit, divers talents, hein, mais le même esprit, diverses quantités de talents, parce que vous avez reçu un, vous avez reçu deux, trois, cinq, mais c'est toujours le même Saint-Esprit, et ça fait, c'est pas parce qu'on a reçu cinq talents qu'on est supérieur à celui qui en a reçu deux. On est tous pareils. Il a détruit ces murs de distinction, ni homme ni femme dans le Saint-Esprit. Il n'y a ni homme ni femme dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire que les femmes sont aussi prêtres que les hommes. Voilà, voilà. Les religions, là, ils, je ne sais pas pourquoi, ils ne comprennent pas ça. Nous sommes des membres d'un seul corps, celui de Christ. Celui ou celle qui a eu sa vie lavée par le sang de Jésus-Christ est prêtre ou prêtresse. Jésus est la tête de ce corps, et chaque membre de ce corps est différent, ben c'est clair. Mais nous sommes sous les ordres de la même tête, Jésus-Christ. On n'a pas de pape, de gourou, de bureau central, de père ou de saint-père qui nous disent ce que nous avons à faire, ce qui est bien, ce qui est mal. Nous savons très bien ce qui est bien, ce qui est mal. Nous savons très très bien, il ne faut pas venir nous raconter des histoires. Maintenant, revenons à la prêtrise intransmissible de Melchisédek et voyons à quel point c'est saint et sacré. On va lire quelque chose, là je suis sûr que très peu de ceux qui m'écoutent en ce moment connaissent, on va lire un texte qui a été retrouvé dans les manuscrits de la Mer Morte, qui date donc d'avant Jésus-Christ. Et dans ce livre, on apprend pourquoi l'apôtre Paul dit que Melchisédek n'avait ni père ni mère. Comment est-ce possible qu'un homme n'ait ni père ni mère? Eh bien, cela se trouve, Paul le savait, et à l'époque les chrétiens le savaient, parce qu'ils avaient tous ces livres, mais maintenant, ils ont été tenus cachés, on appelle ça apocryphe, ils ont été tenus cachés par les religieux, afin que les petites gens, comme vous et moi, ne sachions pas ces choses-là. Alors, naissance miraculeuse de Melchisédek. C'est dans 2 Énoch chapitre 70. Voilà l'histoire, je vous la lis. Et la femme de Ner, Sophonime, stérile et qui n'avait pas donné d'enfant à Ner, Sophonime était au temps de la vieillesse et au jour de la mort. Elle était prête à mourir tellement qu'elle était vieille. Et elle conçut dans son ventre. Or Ner, qui était prêtre, n'avait pas dormi avec elle depuis le jour où le Seigneur l'avait placée à la face du peuple, c'est-à-dire depuis qu'il était dans ses fonctions. Sophonime eut honte, donc cette femme, tombe enceinte comme ça, elle a honte, elle se cacha tous les jours. Et personne du peuple ne le sut, ne sut donc qu'elle était enceinte. Elle était dans les jours de l'enfantement, et Ner se souvint de sa femme, et l'appela à lui dans sa maison pour converser avec elle. Et Sophonime alla auprès de son mari, et voici, elle était enceinte au temps de l'enfantement. Elle était grosse, elle était enceinte jusqu'aux dents. Hein? Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et, la voyant, Ner eut une grande, grande honte d'elle, et lui dit, « Pourquoi as-tu fait cela, femme? Et m'as-tu fait honte devant tout le peuple? Et maintenant, écarte-toi de moi, va, où tu as conçu la honte de ton ventre, pour que je ne souille pas mes mains sur toi, et que je ne pêche pas devant le Seigneur. » Et il a cru que sa femme avait été avec un bonhomme, mais c'était une vieille, c'était une petite vieille, c'était fini pour elle, la ménopause, et voilà, quoi, c'était fini. Et Sophonime répondit à son mari et lui dit, « Mais voici mon Seigneur, le temps de ma vieillesse, et il n'y a pas eu en moi d'ardeur de jeunesse, et je ne sais pas comment a été conçue la naissance de mon ventre, parce qu'elle aussi était choquée, elle ne savait pas. » Ner ne la crut pas, et Ner lui dit une seconde fois, « Écarte-toi de moi, de peur que je ne te frappe, et que je ne pêche devant le Seigneur. » Et il arriva, comme Ner parlait à sa femme, certainement très fort, que Sophonime tomba aux pieds de Ner et mourut. Éner s'affligea grandement et dit dans son cœur, « Est-ce de ma parole que cela lui est arrivé ? Et maintenant, miséricordieux est le Seigneur éternel, puisque ma main n'a pas été sur elle. » Et l'archange Gabriel apparut à Éner et lui dit, « Ne pense pas que ta femme, Sophonime, soit morte à cause d'une faute. Cet enfant qui est né d'elle est un fruit juste. » Et que je recevrai au paradis pour que tu ne sois pas le père d'un don de Dieu. » Donc cet enfant était un don de Dieu, et l'ange lui dit, « Je ne veux pas que tu sois le père de cet enfant. » Éner se hâta de fermer la porte de sa maison et d'aller chez son frère Noé. Noé, oui, je suis de l'arche. Et il lui raconta tout ce qui était arrivé à sa femme. Et Noé se hâta vers la chambre de son frère, et l'aspect de la femme de son frère était celui d'une morte, et ses entrailles au temps de l'enfantement. Et Noé dit à Ner, « Ne te désole pas, mon frère Ner, car le Seigneur a couvert aujourd'hui notre honte, puisque personne du peuple ne le sait, et maintenant hâtons-nous de l'enterrer, et le Seigneur couvrira notre indécence. » Noé y croit aussi que sa femme, cette petite vieille a péché, voilà. Et ils placèrent Sophonime sur un lit et la vêtirent de vêtements noirs, et ils fermèrent la porte et ils creusèrent une tombe en secret. Quand ils furent sortis vers sa tombe, l'enfant sortit de Sophonime morte. Voilà pourquoi elle n'a pas de mère. Et il était assis sur le lit. Et Noé et Ner rentrèrent pour ensevelir Sophonime, et ils virent l'enfant assis près de la morte, et le vêtement était sur lui. Et Noé et Ner s'effrayèrent fort, car l'enfant était achevé de corps. Il parlait par sa bouche et bénissait le Seigneur. Noé et Ner l'examinèrent et dirent, « Ceci est du Seigneur, mon frère. » Et voici, le sceau du sacerdoce était sur sa poitrine et glorieux d'aspect. Et Noé dit à Ner, « Frère, voici que le Seigneur renouvelle le tabernacle de la sanctification après nous. » Et Ner et Noé se hâtèrent de laver l'enfant, et ils le vêtirent des vêtements du sacerdoce. Et Ner lui donna les pains consacrés, et il mangea, et ils lui donnèrent le nom de Melchisédek. Et Noé et Ner prirent le corps de Sophonime. Ils enlevèrent les vêtements noirs, lavèrent son corps et la vêtirent de vêtements brillants et choisis. Et ils lui bâtirent un tombeau, et Noé, Ner et Melchisédek allèrent l'ensevelir avec honneur publiquement. Noé dit à son frère, « Garde l'enfant dans le secret jusqu'au moment favorable, parce que le peuple est devenu méchant sur toute la terre. Et s'il le voit, de quelque façon, ils le feront mourir. » Et Noé s'en alla à sa demeure. Et voici, toute iniquité se multiplièrent sur toute la terre dans les jours de Ner. Et Ner s'affligeait bien plus au sujet de l'enfant et disait, « Que ferais-je de lui ?» Et tendant ses bras vers le ciel, il invoqua le Seigneur et dit, « Hélas, Seigneur éternel, toutes les iniquités se sont multipliées sur la terre dans nos jours, et moi je connais que notre fin est proche. Maintenant, Seigneur, quelle est la vision de cet enfant ? Et quel est son destin, ou que ferais-je de lui pour qu'il ne soit pas retenu avec nous dans cette destruction ?» Le Seigneur entendit Ner, et lui apparut la nuit dans une vision, et lui dit, « Voici que déjà, Ner, la perdition est devenue grande sur la terre, je ne la souffrirai plus, et je ne la supporterai plus. Voici, je pense, moi, faire tomber bientôt une grande destruction sur la terre, le déluge. Mais pour l'enfant, ne t'afflige pas, Ner, parce que j'enverrai dans peu de temps mon archistratège, Michel, et il prendra l'enfant et le placera dans le jardin de l'Éden. Il ne périra pas avec ceux qui doivent périr, et moi je l'ai montré, et il sera mon prêtre des prêtres, à jamais, Melchisédek, et je le sanctifierai, et je le changerai en un grand peuple qui me sanctifiera. » Et Ner, se levant de son songe, bénit le Seigneur qui s'était manifesté à lui et dit, « Béni le Seigneur, le Dieu de nos pères, qui n'a pas donné le blâme à mon sacerdoce dans le sacerdoce de mes pères, parce que ta parole a créé un grand prêtre dans la matrice de Sophonie, ma femme. Car je n'avais pas de descendance, et cet enfant me tiendra lieu de descendance, et il deviendra comme mon fils, et tu le compteras au nombre de tes serviteurs, de Soufi, Onok, et Roussi, Milam, et Serouche, et Aroussan, Naï, et Enoch, et Mathusalem, et ton serviteur Ner. Et Melchisedec sera la tête des prêtres dans une autre race. Je sais en effet que cette race-ci finira dans la confusion et que nous périrons, et Noé finira. Et je sais en effet que cette race finira dans la confusion et que nous périrons, et Noé, mon frère, sera conservé en ce jour pour la plantation, et la race se lèvera, et de sa race se lèvera un peuple nombreux. Melchisedec deviendra la tête des prêtres dans un peuple qui sera ton pouvoir monarchique, Seigneur. Et il advint que l'enfant eut achevé 40 jours dans la demeure de Ner, que le Seigneur dit à Michel, descend sur la terre auprès de Ner, le prêtre, et prend l'enfant Melchisedec, qui est avec lui, et place-le dans le paradis de l'Éden. Car déjà le temps approche, et moi je vais lâcher toutes les eaux sur la terre, et tout ce qui est sur la terre périra, et je le restaurerai en une autre race, et Melchisedec sera la tête des prêtres de cette race. Et Michel se hâta de descendre en volant de nuit. Et Ner dormait sur son lit la nuit. Et Michel lui apparut et lui dit, ainsi parle le Seigneur à Ner. Remets-moi l'enfant que je t'ai confié. Et Ner ne reconnut pas celui qui lui parlait. Son cœur était troublé. Est-ce que, dit-il, le peuple a été informé de l'enfant et le prendra pour le tuer? Car le cœur du peuple était devenu pervers devant la face du Seigneur. Il répondit à Michel et dit, il n'y a pas d'enfant chez moi, je ne connais pas celui qui me parle. Et Michel lui répondit, n'aie pas peur, Ner, je suis l'archange du Seigneur. Le Seigneur m'a envoyé, et voici, je prendrai ton enfant, aujourd'hui, et j'irai avec lui le placer dans le paradis de l'Éden. Et Ner se souvint du premier songe, et il eut foi en Michel, et il répondit, béni est le Seigneur qui t'a envoyé aujourd'hui, et moi maintenant, et maintenant bénis ton serviteur Ner, et prends l'enfant, et fais de lui tout ce qui t'a été dit. Et Michel prit l'enfant Melchisedec en cette nuit sur ses ailes, et le plaça dans le paradis de l'Éden. Et Ner se leva au matin, et il alla dans l'abri, et ne retrouva pas l'enfant. Et ce fut pour Ner une grande joie et un grand chagrin, parce que l'enfant lui tenait lieu de fils. Voilà, mes frères et sœurs. Alors évidemment, bon, il y a plein de religieux qui vont vous dire, oui, c'est un livre apocryphe, faut pas croire ça. Moi, je crois à ça. L'apôtre Paul croyait ça. C'est pourquoi il dit que Melchisedec n'a ni père ni mère. Monsieur Ner n'était pas le père. Et puis, Sophonim, sa mère, était morte quand il est né. Donc, il n'avait pas de mère. Voilà pourquoi Paul nous dit que Melchisedec n'avait ni père ni mère. Pourquoi? Parce qu'il était fils de Dieu. Il est bien né d'une mère, si vous voulez, d'une femme, mais elle était morte. Alors vous et moi, nous avons une mère et un père. Nous ne pouvons pas prétendre à la prêtrise de Melchisedec. Jésus, lui, le pouvait, car il fallait que le Messie soit fils d'une femme comme Melchisedec. Mais Marie n'est pas morte. Il fallait qu'il soit de la postérité d'une femme. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Vous trouvez ça dans la Genèse. Mais d'une femme n'ayant connu aucun homme. Afin qu'il soit parfaitement humain et parfaitement divin. Et cela pour qu'il puisse offrir son corps humain en sacrifice divin pour la rémission de nos péchés. Ce que personne n'a plus à faire. Tous ces prêtres qui élèvent l'hostie, resacrifient de nouveau Jésus. La messe est un sacrifice, c'est une hérésie. Plus personne n'a à faire ça. Car le sacrifice de Jésus est parfait et suffisant. Il est mort une fois pour toutes, pour les péchés du monde et principalement pour les péchés de ceux qui croient en lui, qui lui font confiance. Donc, plus de prêtrise de Melchisédek. Hébreux 7, 24. Sacerdoce intransmissible, c'est Jésus qui l'a, point final. Alors, il y a eu la prêtrise de Melchisédek, et puis il y a eu celle d'Aaron, et toutes ces prêtrises sont... C'est fini, là. Il n'y a plus que la prêtrise de Melchisédek de Jésus, mais la prêtrise d'Aaron n'a plus lieu d'être. Aaron offrait des sacrifices sanglants d'animaux, tout, c'est fini, ça, c'est terminé. Maintenant, Jésus a inauguré une nouvelle prêtrise, celle de son peuple. Une prêtrise de roi sacrificateur. Nous régnerons en roi durant le millénium, et en attendant, eh bien, nous avons à régner sur notre propre vie, en nous disciplinant, chacun selon notre fonction dans la communauté qui est l'Église. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous éclaire, que Dieu vous montre que ces choses sont vraies par son Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir.